Pour la première fois depuis le début de la guerre, les alliés de l'Ukraine autorisent Kiev à frapper la Russie avec des missiles de longue portée.
Oui, le nouveau chancelier allemand Friedrich Merz l'a exprimé hier de manière très claire.
Il n'y a plus de limite de portée pour les armes qui ont été livrées à l'Ukraine, ni par les Britanniques, ni par les Français, ni par nous, ni par les Américains. Cela signifie que l'Ukraine peut désormais se défendre, par exemple, en attaquant des positions militaires en Russie.
Jusqu'à présent, les alliés de l'Ukraine voulaient éviter des frappes en territoire russe, craignant l'escalade avec Vladimir Poutine. Alors est-ce un vrai changement de cap, un moyen efficace de faire pression à l'heure où les Russes intensifient leurs frappes sur l'Ukraine et notamment sur Kiev? On va prendre 5 minutes pour comprendre tout de suite avec notre premier invité ce soir. C'est Guillaume Ancel, ancien officier et chroniqueur de guerre, auteur de Petites leçons sur la guerre, comment défendre la paix sans avoir peur de se battre. Bonsoir Guillaume Ancel.
Bonsoir.
Moscou, sans surprise, dénonce cette décision, dénonce une décision dangereuse. Quelle est votre analyse à vous, Guillaume Ancel ?
Alors, d'abord, le fait que Moscou dénonce cette décision veut dire qu'elle est utile. S'il nous avait dit qu'ils étaient parfaitement d'accord avec, on ne pourrait que s'en inquiéter. La deuxième chose, c'est que, en fait, cette annonce, parce que c'est d'abord une annonce, révèle en réalité deux faits qui ne sont pas exactement l'objet de l'annonce. La première, on se souvient que les Français et les Britanniques avaient déjà donné l'autorisation aux Ukrainiens de pouvoir tirer avec leurs munitions sur le sol russe, afin de permettre aux Ukrainiens de se défendre. Le fait que Friedrich Merz la reprenne, cette annonce, en y associant l'Allemagne et surtout les États-Unis, c'est ça en réalité la nouveauté. D'une part, il y a l'Allemagne, dont on se souvient que depuis des mois, on débat autour de la livraison ou pas de missiles Taurus qui sont plus puissants et qui ont plus d'allonge que les missiles Scalp et Storm Shadow des Européens. Mais surtout, l'Allemagne, en disant ça, légitime le fait qu'il pourrait livrer des missiles Taurus sans le dire explicitement. Et je pense que les Allemands ont raison de ne pas provoquer la Russie en disant « bah oui, on a livré des missiles Taurus et on a bien l'intention que les Ukrainiens s'en servent, mais pour éviter des mesures de rétorsion qui ne seraient évidemment pas un bombardement de l'Allemagne, hein, ce serait s'attaquer à l'OTAN, mais qui pourrait être plutôt sous des formes plus vicieuses de sabotage, d'attentats en Allemagne. » Donc les Allemands annoncent juste qu'ils rejoignent quelque part la mobilisation des Européens sur le sujet. Mais le message le plus important de Friedrich Merz, c'est le fait qu'il implique les Américains et qu'ils disent que, bien sûr, les Américains donnent toujours leur autorisation de frapper sur le sol russe. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'au moment où les négociations sont très compliquées, on l'a vu entre Donald Trump et Vladimir Poutine, autour d'un cessez-le-feu et d'une issue politique, Donald Trump est extrêmement réticent à utiliser le levier militaire pour faire pression sur Poutine. Et c'est Merz qui lui dit « Hein, Donald ?» Tu es d'accord avec nous pour qu'on continue à frapper, y compris avec tes munitions, le sol russe? C'est ça l'information importante que nous donne Merz aujourd'hui.
Cela dit, Joe Biden avait déjà donné une autorisation d'utilisation de missiles longue portée, non?
Absolument, mais Trump était revenu dessus. Et surtout, il faut garder en mémoire qu'aujourd'hui, personne ne s'est frappé sur le sol russe sans l'appui du renseignement américain. Pourquoi ? Parce que ce sont les seuls qui savent cartographier aujourd'hui où sont les systèmes anti-aériens et les systèmes de brouillage électronique russes. Et que par conséquent, pour tracer la trajectoire de ces missiles ou des drones qui sont utilisés par les Ukrainiens contre la Russie, il faut absolument ce renseignement américain. On voit bien que Donald Trump n'a jamais explicité le fait qu'il avait continué cette autorisation. En fait, nous savions de sources militaires que les Américains continuaient à donner ces informations, mais là, Merz le dit officiellement, et quelque part, c'est sa manière de dire à Donald Trump, pendant que tu discutes avec Vladimir Poutine en évitant les mots désagréables, on voit bien que tu lui donnes aussi des coups de pied sous la table, comme nous le faisons nous, sur l'aspect militaire.
Le ton a toutefois un petit peu changé hein, de la part de Donald Trump, qui traitait il y a quelques heures encore Vladimir Poutine de complètement fou. Il doit admettre, ce président américain, qu'on est dans une impasse totale dans les pourparlers pour un cessez-le-feu. Son espoir de mettre fin à la guerre en 24 heures aujourd'hui est totalement douché.
Totalement douché, mais la négociation n'est pas terminée. Quand Trump dit dans une de ses déclarations un peu imprévisible. Mais il est fou, il est devenu fou, je ne comprends pas ce qu'il est en train de faire. Il rajoute aussitôt à la fin de sa phrase, et puis Zelensky n'aide pas son peuple en lui parlant comme il le fait. Donc on voit bien que dans son esprit, les choses ne sont pas toujours très claires. Il voudrait, avec son ami Vladimir Poutine, avec qui il dit qu'il entretient les meilleures relations, reprendre ce qu'il préfère, c'est-à-dire le business. Mais que par ailleurs, Poutine est aussi l'homme qui, tous les jours, fait la guerre aux Ukrainiens, même s'il a fait déclarer par son porte-parole qu'il attaquait l'Ukraine pour défendre la Russie. Donc quand on est face à une telle duplicité, on se dit que évidemment, il faut que Donald Trump arrive à raccommoder les deux personnages et à sortir d'une espèce de, je vais pas dire de naïveté, mais de vérité alternative qui voudrait qu'il y ait plusieurs Poutine, celui gentil à qui on parle pour le réintégrer dans le concert des nations, et puis celui extrêmement dangereux qui tous les jours fait tuer des dizaines, des centaines, des milliers de personnes sur le front en Ukraine.
Pour revenir aux missiles, quelles pourraient être les cibles concrètement? On pourrait, avec un missile Taurus allemand par exemple, frapper Moscou, on pourrait frapper le pont de Crimée, dont on sait qu'il est un symbole de l'occupation russe, hein, ce pont qui relie le territoire russe à la péninsule occupée. Ça pourrait être une cible des Ukrainiens?
Le pont de Crimée, qu'on appelle aussi pont Poutine, hein, qui est extrêmement symbolique, ne serait pas forcément une cible. En fait, ce sont toujours les alliés qui doivent donner leur validation chaque fois que les Ukrainiens veulent frapper une cible avec leur matériel, ce qui est assez normal. Je ne suis pas sûr que le pont de Crimée serait ciblé, parce que ce serait une forme de provocation évidente contre Poutine, sauf si Donald Trump, parce qu'il faudrait l'aval des Américains en fait pour le faire, décidait de frapper un grand coup contre Poutine, ce qu'il n'a encore jamais fait. Par contre, avec ces missiles Taurus qui ont 400-450 km de portée, ça permettrait surtout aux Ukrainiens de frapper des cibles militaires à haute valeur ajoutée. Je pense notamment aux dépôts de munitions et aux bases aériennes d'où partent leurs avions de chasse qui viennent bombarder tous les jours avec des centaines de bombes planantes, sont des bombes guidées qui font d'énormes destructions sur le front. Et puis, bien sûr, aussi les stocks de munitions qui sont à proximité du front. Quand je dis à proximité, c'est quand même à plus de 300 km, qui obligeraient les Russes à compliquer encore leur logistique en écartant un peu plus les postes de commandement et ces dépôts d'approvisionnement. On peut imaginer qu'ils touchent aussi, comme le font les Ukrainiens aujourd'hui avec leurs drones, des usines d'armement. On découvre par The Economist que les Russes ont énormément investi sur la production de drones. Avant, ils les achetaient aux Iraniens. Maintenant, ils les fabriquent tout seuls. On pense qu'ils en fabriquent aujourd'hui à un rythme d'environ 100 par jour, ce qui est considérable.
Très brièvement, pour terminer, Guillaume Ancel, ce sera ma dernière question. Est-ce que le risque d'escalade est réel dans le contexte que vous venez de nous décrire ?
En fait, dans ce contexte, le véritable risque, c'est qu'il n'y ait pas d'issue à cette négociation, parce que la guerre en Ukraine est dans une impasse militaire. Il faut absolument trouver un moyen d'obliger Poutine à accepter une solution politique.
Merci Guillaume Ancel pour cet éclairage ce soir dans Le Monde en direct. Bonne soirée.